chronique créole de Métropole. Marronnage, négritude, littérature, culture, musique, histoire, mémoire, Caraïbes, tout monde, relations, langues, créolité. Chronique créole de Métropole. Aujourd'hui, dans Chronique créole de Métropole, nous partons à la découverte de l'auteur Édouard Glissant, forgeron des concepts d'antillanité, de créolisation, entre autres, et du tout monde également. Philosophe de la relation. Édouard Glissant est né en Martinique le 21 septembre 1928 à Bezodin, Morne qui fait partie de la commune de Sainte-Marie dans le nord de l'île. Issu d'une famille de 5 enfants, il porte alors le nom de sa mère. Godard, son père, le reconnaîtra lors de sa réussite à l'examen des bourses, marquant son entrée au lycée. Son père est gérant d'habitation, personnage haut en couleur qui place l'enfant au contact de la réalité coloniale. Grande autorité et respect de l'ordre établi. Le lieu de la naissance sera essentiel dans l'imaginaire du futur écrivain. Glissant a souvent parlé de l'empreinte indélébile laissée par ce paysage premier, ressenti, vécu, intériorisé par l'enfant, qui est à quelques mois transporté au Lamentin, cœur urbain du centre de l'île. Les escapades de l'écolier sont fréquentes en pleine campagne, accompagnant son père sur les plantations. Bien des années plus tard, il racontera dans La Lézarde avoir fréquemment accompagné sa mère lors des lessives sur ce bras de mer qui parcourt l'arrière-pays du Lamentin. La famille connaît alors de sérieuses difficultés matérielles et les restrictions sont légion. À la rentrée scolaire de 1938, le jeune Glissant, désormais boursier, intègre donc le lycée Schœlcher, où l'enseignement vise l'excellence et la formation des futures élites du pays. Une discipline toute coloniale, alliée à une exigence prononcée. Édouard tire évidemment parti de cette qualité de l'enseignement, tout en étant conscient de l'identité coloniale, de la vision du monde qui s'y joue. Mais ces années coïncident également avec la nomination, en 1940, d'un jeune professeur de philosophie, un certain Aimé Césaire, qui déclenche parmi les lycéens un réel enthousiasme. Le surréalisme, le vertige rimbaldien et les ferments de la négritude font leur entrée dans les murs du lycée Schœlcher, et les consciences s'en trouvent bousculées. Édouard est bien sûr très impressionné par cette haute personnalité, pédagogue, poète et communiste déjà engagé dans la vie politique locale. Mais, contrairement à ce qui est souvent rapporté, Glissant n'eut jamais Césaire comme professeur. Au lycée Schœlcher, il fut l'élève d'Aristide Mauger en classe de philosophie. Premiers essais d'écriture, premiers poèmes vite répudiés, mais l'élan est bien là. Des débuts marqués par la veine surréaliste que renforce encore sa participation à un groupe élaboré par les jeunes lamantinois épris de littérature et préoccupés de politique sous le nom de Frangeux. Passion adolescente pour la liberté libre des surréalistes, pour la révolution et les idées de libération des colonies. Mais Glissant fait déjà entendre là une voix singulière, assez éloignée d'un internationalisme marxiste, insuffisamment soucieux de l'identité originale de son île. Il connaît bien, en érudit, les préceptes de ce marxisme-là, dont il découvre et approfondit les écrits, mais reste néanmoins surtout attentif au destin propre de la Caraïbe. Importante rencontre, par exemple en 1946, avec le jeune poète haïtien René de Pestre, avec qui il parle des soubresauts récents que connaît Haïti, à la recherche passionnée de sa liberté et de son héritage de première nation noire. Penser en caribéen, en somme, à partir d'une épaisseur anthropologique et d'une singularité historique, s'avère pour le jeune Glissant le credo de sa réflexion avant de devenir le lieu et la formule d'une poétique. Tout de suite, nous retrouvons Gilles Sala, le chanteur de charme, qui nous interprète Haïti chéri. Thank you.
Faut que moi te manque, pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut que moi te manque, pour moi t'es capable d'apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Qu'un bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En bas pied bois, où toujours je un bon ambroise. Qu'un bon divan, cabane au bord du fraîcheur. Haïti Thomas, c'est un pays qui m'est cher. L'on a pays blanc, où est tout pays grillon seul pour l'heure. N'a point mis la graisse, belle marabout, belle griffon créole. Qui remet belle robe, on voudrait bonne odeur. Ni belle jeune négresse, qui compte dit belle si parole. N'a pays moi, là tout le monde belle si la yo. Sorti la messe ou sorti dans le cinéma. C'est pour garder, c'est pour être Dieu loulou. À la bon pays, c'est d'Haïti pays de mes heureux jours. Haïti chérie, où j'ai connu mon premier amour. Il faut te quitter pour un jour te regretter et pour t'aimer mieux loin de ton ciel toujours bleu. Joli ruisseau semé de reflets d'argent, jolis ombrages bercés par le joli vent, joli village dans le jour qui va finir. Haïti chérie, sois mon plus cher souvenir. La 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 la.
Édouard Glissant entretient avec Maurice Gandillac en 1957 pour la RTF.
Existe-t-il des écrivains nègres ? Si, en effet, des écrivains comme Aimé Césaire pour la langue française, Richard Dwight pour la langue anglaise, Nicolas Guillen pour la langue espagnole, sont considérés comme faisant partie des meilleurs de ce temps, pouvons-nous dire qu'il y a entre eux une relation évidente? Cette question me paraît pertinente pour la raison que si une littérature nègre existait déjà de manière définitive, avec des normes et des dogmes, nous n'aurions précisément pas à traiter d'une possible intégration, d'une possible rupture de cette littérature par rapport à la littérature française, par exemple. Rupture ou intégration serait chose accomplie. Cette question, intégration ou rupture, ne peut intervenir que dans le cas d'une littérature à l'état de projet, de tendance, et non dans celui d'une littérature déjà fixée. Mais aussi, une telle question ne se poserait pas pour une littérature inexistante, je veux dire qui n'aurait aucune chance d'aboutir. Cette question de l'intégration ou de la rupture a donc une importance capitale, en ceci qu'elle permet d'abord de poser la littérature nègre comme littérature en devenir, qu'on ne peut considérer en soi dans la lettre des œuvres produites, mais dans un mouvement, une projection, un futur. Ainsi, quand je pose cette question de l'intégration ou de la rupture, je postule dès l'abord une relativité des littératures nègres. Et faisant de cette relativité une qualité essentielle, je définis ces littératures comme soucieuses avant tout de rallier toutes leurs chances d'aboutissement et ambitieuses par là même de ne sacrifier ni à une stérile ressemblance, ni au contraire à un vain sectarisme. Si tel est bien le sens général de l'exposé, Il me faut maintenant entrer dans les détails et traiter plus à vif mon sujet, c'est-à-dire analyser ce mouvement, définir cette projection, prévoir ce futur dont j'ai parlé. On peut considérer les littératures nègres comme se divisant en deux blocs bien définis. Les littératures autochtones, populaires, ce sont les contes, les poèmes, les légendes d'Afrique ou des Antilles. Les littératures modernes, de langue française, anglaise ou espagnole, et pour le français, des poètes comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabé-Manonjara. Entre ces deux blocs, un phénomène, la colonisation. Un fait culturel, le colonialisme. L'on peut dire objectivement que, en tant que fait culturel, le colonialisme constitue un abâtardissement de la culture du peuple colonisé. Dans cette mesure, peut-on dire que la littérature nègre moderne et de langue française rejoint par-delà ce fait culturel que représente le colonialisme, en quoi que ce soit ces littératures autochtones populaires dont je parlais.
Vous écouterez un peu plus tard dans cette émission quatre autres enregistrements, donc la suite de ce premier extrait issu d'une entrevue avec Maurice Gandillac pour la RTF en 1957. Comme pour tous les jeunes Antillais de cette époque, la poursuite d'études supérieures exige le départ pour la France et c'est en 1946 qu'Édouard quitte pour la première fois son île natale pour rejoindre Paris à l'âge de 18 ans. Le premier contact est rude avec cette capitale tant de fois imaginée et dont on a si souvent lu des descriptions sous des plumes inspirées. La réalité est tout autre. Isolement et difficultés matérielles sont souvent le lot des étudiants antillais dans ces années-là. Au 4 de la rue Blondel habite le jeune Édouard Glissant qui rencontre d'autres antillais parmi lesquels notamment Frantz Fanon, début d'une amitié forte. L'étudiant de la Sorbonne persévère dans l'écriture. Un chant d'île est achevé en 1949 et sera publié en 1953. Licence de philosophie la même année, puis diplôme d'études supérieures en ethnologie sous la direction de Jean Val, découverte des conceptions du monde dans la poésie contemporaine. Poursuite de l'œuvre et rédaction de La Terre inquiète qui paraîtra en 1955. Édouard s'ouvre alors à la vie intellectuelle parisienne si intense dans ces années-là. Après son retour au pays natal à lui, en 1953, il est désormais rompu à la vie des salons littéraires dans lesquels il lie de solides amitiés. Formant un petit groupe soudé par une commune foi dans les vertus du renouveau de la poésie, Jean Paris, Jacques Charpier, Henri Pichette, Yves Bonnefoy, Maurice Roche, Kate Biassine, Jean Laude, Roger Giroux, entre autres. Des affamés de littérature qui ont foi dans les luttes de la décolonisation qui s'amorcent dans ces années-là, pour que l'Europe aux anciens parapets paie son tribut, pour que l'Europe aux anciens parapets paie son tribut aux damnés de la terre. Une vie intellectuelle intense, en somme, activité d'écriture et travail critique, notamment pour les Lettres Nouvelles, célèbre revue de son ami Maurice Nadeau. Mais cette activité intellectuelle ne se restreint pas au champ littéraire. Le jeune poète déploie un engagement culturel et politique qui le mène par exemple à partir de la fin des années 40 à collaborer régulièrement à la revue Présence Africaine ou encore à rejoindre le comité exécutif de la Société Africaine de Culture. Bien sûr, la création connaît chez Glissant un moment marquant avec la publication en 1956 de « Soleil de la conscience » et du poème « Les Indes ». En 1958, le début de la carrière littéraire de Glissant connaît un tournant. En novembre, l'écrivain alors âgé de 30 ans reçoit le prix Renaudot pour son premier roman « La Lézarde » publié au Seuil. Ce récit, parfois déconcertant par son style poétisé, de la trajectoire d'un groupe de jeunes anticolonialistes martiniquais, enchante la critique par son élan tout particulier. La modernité de la narration, tout comme le propos lui-même, laisse entrevoir à certains l'envol d'une figure essentielle des années qui s'annoncent et des luttes de la décolonisation qui se profilent et se sont déjà amorcées. Pour le grand public, un romancier est né, et pour les connaisseurs qui ont déjà lu le jeune poète, l'œuvre s'enrichit. Je vous propose donc la lecture d'un extrait de La Lézarde. « Je l'ai aperçue, dit Mathieu, au milieu des phrases et du bruit. Elle était là, pourtant je n'ai pas bougé. Elle criait, je suis demeuré silencieux. Elle appelait et je n'ai point répondu. La houle de ses mots autour de moi, comme une clairière dans ma forêt. Ses arbres clairs parmi mes arbres noirs. Je croyais, pensait à elle, que tu voulais te détacher, seulement connaître et enseigner. Que font tous ces mots maintenant? Pourquoi cette exaltation ? Mathieu, Mathieu, soyons plus simples. Car elle n'a pas de passé ni d'attache, comme moi, comme moi. Elle brûle dans son silence et ses larmes ne signifient pas. Elle se consume dans son cri et les larmes évaporées soudain laissent à ses yeux une étoile très dure. Elle est pour moi. Son ignorance rejoint mon ignorance. « Oh, divisé !» criait à elle. Mais emporté par ce lyrisme, il criait du plus épais de son silence, d'une clameur muette et forte. « C'est toi qui embellis cette femme. Qui peut te comprendre ? Tu es seul, tu devines, tu as la connaissance, oui, mais tu ne peux pas profiter de ce... Mais tu ne peux profiter de ce trésor. Je vois que tu ne peux choisir, qu'il faudra que je t'aide, toi qui es venu à ma rencontre. » Elle n'a pas de racines. Qui est-elle ? Mais elle a plongé dans notre source, elle a remonté le temps et connu cette puissance originelle. Je sais qu'elle pleure sur moi, j'ai oublié le noir pouvoir. Et qui sommes-nous et quoi, si nous ne le disons pas, ici, à la face des mornes ? Voici ce qui m'attache à elle, un silence qui se hait, le muet tumulte. Mathieu, reviens sur la route, reviens, vois cette poussière et ce sang, oublions, vivons. J'aime la terre pesante, oui, j'aime ce goût de fadeur qu'elle a sur la peau. Je suis sombre comme la terre et misérable, et comme elle, fabuleux. Mais je suis aveugle, je ne vois pas la sève couler dans les entrailles de la terre. Je suis sourd, et les mots n'ont pas connu le toucher de la roche, l'amour de la terre noire. Pourtant, je suis assis au plein de ce bouillonnement. Je crie dans cette naissance, et nul ne ment, et nul ne m'entend. Je veux dire cette naissance et ensemble cela qui naît. Je veux conclure, signaler, et cela qui naît, qui est pour moi et qui me dépasse, occupé à bien-être, ne m'entend pas. Folie, folie de l'esprit. Maintenant j'irai au soleil. J'attends Valérie que je ne connais pas encore. Elle m'est venue tout soudain. Avec elle, je quitterai les mots, nous habiterons le long silence où se font les germinations. Nous irons dans l'aveugle midi, et enfin nous brûlerons, et nos cendres parleront. Ne crois pas cela, Mycéa. Mycéa, ne l'abandonne pas. Elle habite cette vallée, je l'ai épiée, adorée, dans le silence de la forêt. Je l'ai surprise sous les pluies, elle brillait solitaire. Son corps est un copeau de ciel noir, ses yeux crient l'été. Sa bouche parle au mystère du jour. « Je veux la connaître !» cria Taël. Mathieu refusa aussitôt, avec une surprenante netteté.
« Peut-on établir un rapport entre des légendes africaines, tel poème de Césaire et tel conte cubain ? Et si ce rapport existe, est-il souhaitable de les lire, de le vanter, de tâcher d'en dégager les leçons ? Toutes questions qui n'ont qu'une réponse positive possible, dans l'affirmation que des littératures de langue autochtone à la littérature nègre de langue française moderne, la continuité est remarquable, les qualités identiques. Que le fait culturel du colonialisme n'a pas réussi à oblitérer ce qu'on pourrait appeler le message des civilisations nègres. Et qu'ainsi, le moyen d'expression, la langue, la modulation même de la langue, l'unité que confère la langue, abdiquent désormais leur souveraineté pour faire place à un plus haut propos littéraire, propos qui serait de magnifier une nouvelle vision du monde. Par-delà les différentes langues, soit africaines, soit françaises, soit peut-être créoles, c'est l'exaltation de cette vision du monde qui constitue l'unité de ce qu'on pourrait appeler les littératures nègres. Mais essayons d'abord de définir les caractéristiques des littératures nègres autochtones. La première me paraît être le rythme. Le rythme est la qualité de tout ce qui respire. Ce n'est pas la métrique. C'est un ordre supérieur et consenti qui met en place non seulement le mesuré, mais encore le démesuré. Je veux dire qu'ici, le rythme n'est pas donné en plus de la matière qui est rythmée, mais avec cette matière, à l'intérieur de cette matière, comme une de ses données. Et cela, même si cette matière est désordonnée ou exaltée. La deuxième caractéristique me paraît être ce qu'on peut appeler le réalisme poétique. C'est une perception des êtres et des objets dans leur saveur et non pas dans leur signification. Une rugosité de toute chose, une verdeur de toute rencontre. Un insouci constant d'imposer une apparence aux choses, mais au contraire, une inclination naturelle de celui qui voit à se laisser envahir par la vision. La troisième caractéristique essentielle, et qui résulte des deux autres, me paraît être l'abandon aux essences. C'est une manière immédiate d'envisager le monde, sans vouloir orienter la vision. Non seulement il n'y a pas l'impératif de l'idée, mais il n'y a pas symbolisme, comme les ethnologues modernes le croient si souvent. Par exemple, il n'y a jamais de moralité dans les contes créoles.
Chronique créole de Métropole. En ces années-là, l'engagement n'est pas qu'une idée généreuse, c'est aussi le moteur de ferveurs concrètes et de risques tout à fait réels, car les combats politiques de l'heure sont intenses, plaçant les intellectuels face à des choix cruciaux. Glissant prend sa part à cette ferveur politique, tout en refusant de subordonner la création aux nécessités du moment. Avec quelques grands noms tels que Césaire, Breton, Léris, Mémy ou Benjamin Perret, Glissant réagit activement au sein du cercle international des intellectuels révolutionnaires à l'insurrection de Budapest qui secoue en octobre-novembre 1956 la capitale hongroise. L'incroyable brutalité de la répression soviétique, on compte alors près de 200 000 morts à la suite des affrontements, sonne le glas de bien des illusions d'intellectuels qui avaient cru à ce communisme à visage humain qu'avait laissé présager les prémices de la déstalinisation. Mais c'est bien sûr l'anticolonialisme qui constitue alors le champ d'engagement le plus prégnant pour le jeune écrivain martiniquais. Débat littéraire et culturel tout d'abord, au sein de la Fédération des étudiants africains noirs et de la Société africaine de culture, ou encore dans la revue Présence africaine. C'est toujours et encore la spécificité antillaise qui fait l'objet de ces interventions. Dans le concert de ce que d'aucuns nomment alors la diaspora noire, Glissant est soucieux de rappeler les fondements particuliers de la situation coloniale qui sévit aux Antilles. Après avoir participé à la première session du Congrès international des écrivains et artistes noirs en septembre 1956 à la Sorbonne, c'est lors de la deuxième session qui se tient à Rome en mars 1959 que Glissant va faire une rencontre décisive en la personne d'Albert Béville, administrateur au ministère des colonies, guadeloupéen d'origine et qui a pris en littérature le pseudonyme de Paul Niger. Les deux hommes sympathisent et se reconnaissent une commune approche des questions de décolonisation. C'est cette proximité de vue qui explique notamment qu'en 1961, Glissant fonde avec Béville, Conné, Marie-Joseph et l'avocat Marcel Manville le Front Antillo-Guyanais, Front des Antillais et Guyanais pour l'autonomie, qui milite clairement pour la décolonisation des Antilles et de la Guyane française. C'est d'ailleurs à l'ami et au poète Albert Béville, Paul Niger, qu'est dédié le 4e siècle qui paraît au Seuil en 1964 et remporte le prix international Charles Veillon. Le roman est salué comme un chef-d'œuvre capital, véritable maelstrom mythologique des Antilles. En pleine guerre d'Algérie, Glissant est signataire en 1960 du Manifeste des 121, déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Le contexte politique n'est pas très favorable à cette hardiesse-là, et le 22 juillet 1961, le front est dissous par décret du général de Gaulle pour atteinte à la sûreté de l'État. Non content de cette dissolution, les autorités décident de court-circuiter totalement les menées jugées subversives des dirigeants de l'organisation. Tout comme Béville à Orly, Glissant est arrêté en septembre en Guadeloupe, expulsé, interdit de séjour aux Antilles et assigné à résidence en métropole. Le 22 juin 1962, Béville embarque clandestinement pour la Guadeloupe, mais le Boeing 707 d'Air France s'écrase au nord-est de Pointe-à-Pitre, faisant 173 morts, dont deux autres militants anticolonialistes, antillo-guyanais, Justin Cataillé et Robert Tropos. Une soirée commémorative est organisée à Paris, au Palais de la Mutualité, le 6 juillet. Glissant y prononce un discours émouvant, au nom de l'Association Générale des étudiants martiniquais.
On voit qu'il n'est pas inutile de considérer ces aspects de la littérature nègre autochtone. Ils s'opposent en effet de manière frappante avec tout ce que nous savons du mouvement littéraire occidental. Nous observerons une sorte de complémentarité entre ces littératures nègres autochtones et la littérature occidentale telle qu'elle s'est développée depuis plusieurs siècles. Ici, en Occident, c'est l'idée, la raison qui prédomine, et dans les littératures nègres autochtones dont je parle, c'est non plus l'idée, mais la saveur, et en particulier le rythme qui naît de cette saveur. La littérature nègre de langue française moderne a-t-elle retrouvé ses qualités? Après la coupure que constitue l'acte colonial, peut-on parler d'une renaissance de ses qualités? Existe-t-il une continuité, sinon dans la lettre, du moins dans l'esprit, qui nous autorise à définir, la littérature d'un écrivain moderne comme le Martiniquais Aimé Césaire comme une nouvelle formulation adaptée au monde moderne du message nègre.
En 1965, Édouard Glissant retourne en Martinique et s'y installe. Dans les années suivantes, l'écrivain sera constamment à cheval entre Paris et Fort-de-France, où il fonde en 1967 l'Institut Martiniquais d'études, IME, institution privée d'éducation qui vise à restituer aux jeunes Antillais l'enseignement en accord avec la réalité de leur histoire et de leur géographie contre toute acculturation. L'IME est aussi le lieu d'une activité très dense en matière culturelle, qu'il s'agisse de festivals de théâtre ou de colloques interdisciplinaires. C'est aussi dans cette optique qu'il fonde en 1971 la revue Acoma, chez Maspero, qu'il veut être le lieu critique d'une réflexion antillaise menée par les Antillais sur les divers aspects d'une société et de ses maux. Les quelques numéros parus jusqu'en 1973 marquent les esprits. Les années 70 voient aussi l'intérêt de Glissant pour le théâtre déboucher sur une pièce marquante qui retrace l'épopée de Toussaint Louverture, Monsieur Toussaint, créée par la Compagnie du Théâtre Noir en 1977 à Paris, au Théâtre de la Cité Universitaire. L'œuvre, bien sûr, poursuit son effort multiforme. L'intention poétique tout d'abord, en 1969, livre tout en profondeur le fruit d'une longue réflexion sur la justesse d'une parole originale, issue d'une expérience inédite de créolisation. En 1975, c'est le tour de Malemort, roman foisonnant tant par sa trame que par sa structure. Et cette richesse même est confirmée par La case du commandeur, qui reprend en 1981, dans une sorte de quête généalogique et historique, plusieurs personnages des romans précédents. Mais le maître ouvrage dans le domaine des essais pour cette période, Le discours antillais, publié en 1981 et qui vise un panorama exhaustif de la réalité antillaise dans une approche à la fois anthropologique, sociologique, littéraire et bien sûr historique. Densité du propos et de l'analyse livrée ici et diversité des modes d'appréhension du réel, tous ces aspects sont pour longtemps les traits mêmes des essais de Glissant et on en a ici ce qui pourrait bien être une somme car, comme le rappelle l'épigraphe de Fanon, c'est une tâche colossale que l'inventaire du réel. Et je vais donc vous lire un extrait du discours antillais. Le même et le divers. Nous apprécions les avatars de l'histoire contemporaine comme épisodes inaperçus d'un grand changement civilisationnel qui est passage de l'univers transcendantal du même, imposé de manière féconde par l'Occident, à l'ensemble diffracté du divers, conquis de manière non moins féconde par les peuples qui ont arraché aujourd'hui leur droit à la présence au monde. Le même, qui n'est pas l'uniforme ni le stérile, ponctue l'effort de l'esprit humain vers cette transcendance d'un humanisme universel sublimant les particuliers nationaux. Le rapport dialectique d'opposition et de dépassement a, dans l'histoire occidentale, compris le national comme obstacle privilégié qu'il fallait accomplir et donc vaincre. Dans ce contexte, l'individu considéré comme véhicule absolu de la transcendance a pu affirmer de manière subversive son droit à contester l'accident particulier tout en s'y appuyant. Mais, pour nourrir sa prétention à l'universel, le même a eu besoin d'eux, la chair du monde. L'autre est sa tentation. Non pas encore l'autre comme projet, d'accord, mais l'autre comme matière à sublimer. Les peuples du monde furent ainsi en proie à la rapacité occidentale, avant de se trouver l'objet des projections affectives ou sublimantes de l'Occident. Le divers, qui n'est pas le chaotique ni le stérile, signifie l'effort de l'esprit humain vers une relation transversale, sans transcendance universaliste. Le divers a besoin de la présence des peuples, non plus comme objet à sublimer, mais comme projet à mettre en relation. Le même requiert l'être. Le divers établit la relation. Comme le même a commencé par la rapine expansionniste en Occident, le divers s'est fait jour à travers la violence politique et armée des peuples. Comme le même s'élève dans l'extase des individus, le divers se répand par l'élan des communautés. Comme l'autre est la tentation du même, le tout est l'exigence du divers. On ne peut se faire trinidadien ni québécois si on ne l'est pas. Mais il est désormais vrai que si la Trinidad ou le Québec n'existaient pas comme composante acceptée du divers, il manquerait quelque chose à la chair du monde, et qu'aujourd'hui nous connaîtrions ce manque. Autrement dit, que s'il était loisible que le même se révélât dans la solitude de l'être, il demeure impérieux que le divers passe par la totalité des peuples et des communautés. Le même, c'est la différence sublimée. Le divers, c'est la différence consentie. C'est un peu vers cette période que la pensée de Glissant commence à rayonner tout particulièrement dans le monde intellectuel. On est bien sûr sensible à ce déploiement multiforme d'une réflexion ouverte, loin de tous les systèmes clos qui, quant à eux, ont bel et bien amorcé leur déclin. Le discours entier est accueilli avec cet enthousiasme-là, car on note bien que depuis l'intention poétique, le décryptage du réel, tant sur le terrain esthétique que sur les plans politiques ou idéologiques, est affaire de souplesse chez Glissant. À travers une écriture d'une grande densité, les vieux schèmes sont battus en brèche pour mieux ouvrir le propos à l'imprévisible du monde. Nouveau tournant pour Glissant au début des années 80, il est appelé à l'UNESCO où l'audience de sa parole réussit en peu de temps à le hisser en 1981 au poste important de directeur du courrier de l'UNESCO, qui est alors un titre international très respecté sur la scène mondiale. Le courrier comprend alors 26 éditions linguistiques, dont 6 faites à Paris, sous le mandat de Glissant. La ligne éditoriale des numéros réalisés alors balaye un prisme assez large, allant de considérations ethnographiques aux débats géopolitiques globaux ayant trait au domaine de prédilection de l'institution, l'éducation, le développement, la science et la culture. Le poste est passionnant pour cet esprit épris du dialogue des peuples, de cette fameuse mise en relation qu'il a pour repère.
L'expérience du poète nègre tient peut-être en une phrase. C'est une flambée de chaos que vient peu à peu éclairer, serrer, féconder une mesure. L'écrivain nègre ne se concentre pas, il s'anime. Je dirais que pour lui, l'écriture est comme un flux qui vient battre en brèche un courant de pensée pour dénuder la pensée et en même temps la transporter. Tentation donc de la ruer. Il semble qu'ici, ce soit le sentiment d'une frustration antérieure. Le besoin de combler des siècles, une sorte d'impatience qui, tout autant que ce qu'on a appelé la sympathie avec les choses élémentaires, anime la voix de l'écrivain nègre. Pour moi, je crois à cette vérité élémentaire, tout écrivain nègre, au moment de sa première parole, est un chaos. Ce chaos, sur quelle disposition de l'être, à partir de quelle particularité a-t-il pu proliférer ? C'est sur une disponibilité totale, l'absence de tout préjugé dans la manière de regarder le monde. Particulièrement, l'écrivain nègre ne souffre pas de l'hypothèque rationaliste. Et sur ce point, le monde a une grande dette vis-à-vis de l'Europe, qui n'est pas tant dans cela que l'Europe a conquis la raison, mais bien dans ceci qu'elle subit encore les atavismes d'une telle éducation rationaliste. Pendant combien de siècles ? L'Occident a péniblement fait l'apprentissage du rationalisme. Voilà que d'autres peuples vont bénéficier d'un tel accouchement sans en souffrir les conséquences. Ce chaos, que recouvre-t-il ? Bien sûr, la sympathie dont je parlais avec les choses élémentaires et qui est liée à la disponibilité totale. Voir le monde sans préjugés de la vision, c'est le voir de manière immédiate. Ce chaos encore, à quoi peut-il tendre ? Il répond à la nécessité pour l'être de venir à la lumière du monde, de s'y connaître à sa place. C'est cela la tension chaotique, une inclinaison impérieuse vers une totalité où il se faut assigner sa propre place, vers un tout dont on veut être partie. Il semble que tout cela se précipite furieusement dans la gorge, lorsque l'écrivain nègre commence d'écrire. Après cette démesure vient ce que j'appelle la mesure qui n'est pas la raison ni l'ouvrage de la raison. Cette mesure correspond plus particulièrement à la nécessité que j'ai dite de connaître sa place dans l'univers. Après l'éblouissement premier intervient le choix de la conscience. Chez le poète Aimé Césaire, par exemple, c'est tout le passage « Ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, ceux qui n'ont dompté ni les vents, ni l'électricité, mais ils s'abandonnent saisis à l'essence de toute chose. » Il y a là une démarche de la conscience dans l'évaluation du plus ou du moins. Le moins, c'est de n'avoir pas inventé la poudre ni la boussole. Le plus, c'est cette qualité de s'abandonner saisi à l'essence de toute chose. La mesure dont je parlais, ce n'est pas une mise en équation, ce n'est pas une abstraction de force concrète, c'est un choix.
Édouard Glissant quitte l'UNESCO en 1988 pour accepter la proposition qui lui est faite aux États-Unis d'un poste de Distinguished Professor à l'Université de Louisiane. À bâton rouge. Depuis longtemps déjà, il est passionné par la contiguïté des villes qu'il nomme créoles et par cette part créole justement de la Louisiane qui occupe au sud des États-Unis une position unique. Les reliquats de la langue créole parlée par les Cajuns le frappent beaucoup, ainsi que les traits culturels originaux de la région, et il organise des colloques interdisciplinaires pour dresser une sorte de trait d'union entre la Louisiane et les Antilles, à l'occasion desquels, par exemple, les conteurs créoles des deux rives se rencontrent. Il y a deux rives également sur le fleuve Mississippi. Nous allons écouter Johnny Hooker qui nous interprète Tupelo, une chanson qui revient sur les inondations du Mississippi.
Read about the flood. Town said way back in the east, Tupelo, Mississippi. One Friday evening, a dark cloud rolled. Started raining. It rained and it rained. Both night and day. Thank you.
l'enseignement, toujours, avec cette soif de la transmission qui ne l'a pas quitté depuis l'IME. Le contact avec les étudiants est particulièrement souple au sein des universités américaines et la diffusion de son œuvre aux États-Unis n'est certainement pas étrangère à l'intérêt que suscite son enseignement, d'autant plus qu'il dirige au sein de l'université le Centre des études françaises et francophones. Ce début de la période américaine est aussi l'occasion pour Glissant de relire Faulkner. Il réexamine le cheminement littéraire de William Faulkner en y décelant ce qu'il nomme une écriture du différemment, au gré de laquelle cet autre écrivain des plantations a dit le malaise du sud des États-Unis et ses névroses identitaires. Cela donne en 1996 l'essai Faulkner, Mississippi. En 1994, la City University of New York l'appelle pour occuper la chaire de littérature française au Graduate Center. Un réel engouement se fait sentir autour des cours qu'il dispense aux doctorants avec qui il crée un club de poésie. Parallèlement à cette activité d'enseignement, le rayonnement international de l'œuvre de Glissant ne cesse de croître à travers le monde, comme en témoigne tout particulièrement le nombre de colloques internationaux de grande envergure qui lui sont consacrés. L'écrivain est alors constamment sollicité, qu'il s'agisse de conférences, de débats ou autres manifestations publiques dans lesquelles on est avide de sa parole d'ouverture. Dans les années 90, à la tête du Parlement international des écrivains, dont il devient président honoraire en 1993, il y côtoie entre autres Salman Rushdie ou encore Wolsoyinka, assiste à la création du réseau des villes-refuges pour les écrivains persécutés pour raisons politiques, et c'est là une institution à laquelle Glissant est très attaché, en y défendant la voie persistante de cette pensée tremblée qui est celle d'une littérature qui, à l'échelle du monde et par le rassemblement de ses acteurs, tente de faire entendre une libre parole d'intuition.
Donc, chaos mesure. Et une des caractéristiques des littératures nègres me semble devoir consister en une synthèse des forces du chaos et des forces de la mesure. En une synthèse de l'immédiat et du réfléchi, du même et de l'autre. Bref, comme l'a dit M. Bataille, en une mesure de la démesure. Il est important de considérer que cette caractéristique qu'on peut dire naturelle, mieux imparable, est une qualité vers laquelle la littérature française tend depuis deux siècles. Soit avec Rimbaud, en effet, soit avec le surréalisme, la littérature française a tenté depuis longtemps l'approche de la démesure. Mais ici, en Occident, je peux dire que c'est une vue de l'esprit, une conséquence littéraire, un projet. Chez l'écrivain nègre, je dirais que c'est une composante intime, un point de départ. L'on voit tout de suite où interviennent les éléments de rupture et les éléments d'intégration. Les littératures nègres sont modernes, mais avec soudaineté. Cette modernité n'a pas été conquise après un long travail, une lente évolution. Les littératures nègres tendent vers le monde, mais avec passion. Il y va de la vérité de l'être. Il faut qu'il accroche le monde pour survivre. C'est son premier recours. Ces littératures opèrent une mesure de la démesure, une prise totale de l'être. C'est une opération vécue sur quoi repose le salut. Il faut que l'être soit total. Ce n'est pas ici une opération de la culture ou de la connaissance, c'est une donnée intime. Je dirais que c'est une question de vie ou de mort, ou plutôt de naissance ou de mort. Toute cette différence nous montre qu'il y a à la fois rupture et intégration des littératures nègres par rapport à la littérature française. Mais l'intégration ne nuit pas à l'intégrité de ces littératures nègres, puisqu'aussi bien une vision du monde devient ce qui fait l'unité de ce groupe, et non pas la langue dont il se sert. Et la rupture n'est pas racisme, puisqu'elle conduit par la connaissance de soi à celle de l'autre et du tout. En vérité, la rupture se fait ici avec un passé d'ignorance. L'intégration se prépare déjà à l'intérieur d'un nouvel humanisme qui serait à la mesure du monde retrouvé.
Si l'audience s'accroît particulièrement en ces années, c'est aussi parce que la réflexion et la création ne sont jamais interrompues chez Glissant et l'œuvre n'a cessé de se ramifier davantage avec de précieux fleurons dans le roman comme dans une nouvelle période née avec Tout le monde en 1993 qui ouvre le récit sur cette présence élargie qui se voit confirmée dans Sartorius, le roman des Batutos en 1999 et Ormérode en 2000. Pour ce qui concerne les essais de la politique de la relation en 1990 aux écrits des années 2000, avec le tournant conceptuel représenté en 1997, avec le traité du Tout-Monde, c'est également d'ouverture qu'il s'agit, car cette pensée ne s'est jamais tant accordée à un projet intime de rayonnement, sans projection artificielle, mais toujours en écoute aiguë.
Chronique créole de Métropole.
Les années 2000 vont donc confirmer et encore amplifier cet enrichissement de la pensée, puisque c'est à un rythme soutenu que l'écrivain publie dans ces années-là toute une série d'essais cruciaux qui sont autant de nouvelles variations sur une relation toujours plus ouverte au bruissement du monde. La Coët du Lamantin, 2005, Une nouvelle région du monde, 2006, Philosophie de la relation, 2009, pour ce qui est des essais phares qui viennent élargir la poétique ou ouvrir l'esthétique. D'autres publications, dialogues ou manifestes cinglants et écrits de circonstances montrent encore, s'il en était besoin, combien la pensée de Glissant n'a pas interrompu sa marche propre et combien l'essayiste n'a jamais abandonné son engagement étroit dans le débat public, une présence de pensée et de combat. En 2006, le président de la République Jacques Chirac lui confie une mission d'élaboration d'un centre national dédié à la traite et à l'esclavage, mais la concrétisation de ce centre, à laquelle Glissant est particulièrement attaché, ne se réalisera pas. Il publie d'ailleurs en 2007 « Mémoire des esclavages » chez Gallimard, mettant en lumière une fois encore l'importance de cette entreprise mémorielle collective autour de la traite. En 2010, le manifeste 10 mai, Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, prend acte de l'enlisement du projet du Centre national et enfonce encore le clou. Cette époque est également celle des chaos opéra, sorte de récital poétique mené par Glissant et ses amis en divers lieux et diverses occasions, donnant à voir, entendre et ressentir les ondoiements d'une relation vécue et offerte au public. Ces dernières années sont surtout marquées par l'ultime réalisation institutionnelle à laquelle Édouard Glissant tient tout particulièrement et à laquelle il apporte toute son énergie. En 2006, il crée l'Institut du Tout-Monde avec le soutien actif de la région Île-de-France et du ministère de l'Outre-mer. Le projet repose sur une idée simple et ambitieuse à la fois. Il s'agit de concrétiser les idéaux de rencontre et de coprésence mis en valeur par l'écrivain avec une vigueur singulière depuis les années 90 à travers les notions de relation et de tout monde. Avec la volonté de rallier les énergies les plus diverses autour de ces principes d'ouverture, l'Institut s'avère une entité à la fois internationale et nomade, et suscite des initiatives variées qui vont des séminaires universitaires menés par le philosophe François Nudelman à la Maison de l'Amérique latine ou à l'Agence de la francophonie à l'organisation du prix Carbé de la Caraïbe. Une multitude de réalisations et de projets qui témoignent bien de ce souhait de l'écrivain de voir incarner cette nouvelle région du monde en relation dont il décrit l'avènement dans son essai de 2009. Une ferveur aussi à laquelle il apportera son concours jusqu'au bout à travers ses interventions lors des séminaires ainsi qu'en assurant la promotion active de ce nouvel outil qu'il aura créé comme une haute proposition valable pour tous. Écoutons-le à présent nous parler du rhizome.
Le seul intérêt de la pensée du rhizome, c'est de savoir si ça s'applique vraiment à une notion nouvelle de l'identité. Si ça s'applique vraiment à une notion nouvelle de l'identité, l'identité comme rhizome, c'est-à-dire l'identité comme relation et non plus comme racine unique, eh bien, c'est pertinent et c'est formidable. Bon, j'ai lu dans Deleuze et Guattari, qui étaient mes amis, j'ai pris connaissance de la notion de rhizome comme mode de fonctionnement de la pensée. Et je l'ai appliqué à l'analyse de mode d'identité. Bon, ben voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est justement à partir de cette idée du rhizome deleuzien et guattarien, et aussi avant cela, à partir de mon expérience des sociétés caraïbes, qui sont des sociétés de mélange et des sociétés où sur la plantation, lieu d'exploitation et d'oppression, mais aussi lieu de rencontre, les mélanges de l'ère caraïbe, de l'ère brésilienne, etc., se sont opérés. J'ai considéré que la langue créole, par exemple, était une des conséquences de ces rencontres et de ces mélanges. Et j'appelle créole la rencontre de plusieurs éléments linguistiques venus d'aires différentes et qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres. Par exemple, un vocabulaire français, normand et breton du XVIe et du XVIIe siècle et une sorte d'épure grammaticale des langues africaines subsahariennes. Ça fait, sous la pression des événements et la précipitation du travail et de production dans les nouvelles sociétés coloniales, ça fait les langues créoles qu'on dit francophones. Et le problème, c'est que la langue n'a rien à voir avec les composantes d'origine. Et par conséquent, j'appelle créolisation des mélanges et des rencontres, et des heurts et des accords et des fusions d'éléments civilisationnels et culturels dans un moment et dans un lieu donné. Et avec, et c'est ça que j'appelle créolisation, avec un résultat inattendu, un résultat qu'on ne peut pas prévoir. C'est la différence entre le métissage et la créolisation. Le métissage, on peut plus ou moins en prévoir les conséquences. La créolisation, jamais. L'autre donnée de la créolisation, c'est que les éléments qui la constituent ne disparaissent jamais, ne sont pas avalés dans la résultante. C'est pour cela qu'on peut être créole et noir, rester noir. On peut être créole et blanc, rester blanc. On peut être créole et un mélange des deux, sans que ça disparaisse, n'est-ce pas? Et c'est ça la nouveauté fantastique de la créolisation, et que je résume en disant, je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer. Et je pense que il y a là quelque chose qui répond à tous les intégrismes, à toutes les exigences, à tous les renfermements, à tous les sectarismes et à toutes les isolations.
En 2009, Glissant publie son dernier essai marquant, nonobstant les publications de Dialogues et de Manifestes, avec Philosophie de la relation dont le sous-titre est Poésie en étendue. Ceux qui ont été attentifs à cet ultime élargissement des préceptes qui ont fondé l'œuvre conceptuelle, notamment une projection des origines de la parole poétique et une extension temporelle particulièrement marquante de la relation, auront également perçu les accents quasiment testamentaires de l'essai. Il en va ainsi du retour comme en une boucle à laquelle tendait aussi la couée du Lamantin, au lieu premier, pour constater sa perte, mais dans le même temps, dire qu'il aura essaimé tout le parcours. Mais il en va également de cette vision, de cette confrontation pour tout dire de la mort, celle de la mère et la sienne propre, évoquée comme un écho dans le texte composé en 2007 à l'occasion du décès d'Aimé Césaire. Cette irrémédiable mort des poètes est aussi une projection dans le temps vers une pérennité de la parole qu'il s'agit de faire partager, d'où l'anthologie de 2010. Au cours de l'année 2010, la santé de l'écrivain se dégrade alors qu'il est aux États-Unis. Il rentre en France peu de temps avant l'été. Son activité sera ralentie et pourtant le dialogue avec Lise Gauvin, l'imaginaire des langues, paraît en octobre. En novembre, il apparaît en public pour la dernière fois pour un hommage mémorable qui lui est rendu au théâtre de l'Odéon autour de l'anthologie « La terre, le feu, l'eau et les vents », une anthologie de la poésie du tout-monde. Édouard Glissant décède le 3 février 2011 à Paris à l'âge de 82 ans. Lors de ses derniers jours, une expression revenait constamment dans ses propos, âme vivante du monde. Il est inhumé le 9 février au cimetière du Diamant en Martinique, non loin de ce mémorial des esclaves qu'il affectionnait tant et qui porte en lui le souffle et la mémoire, le cri et la trace. L'œuvre d'Édouard Glissant est assez immense, alors je vous recommanderai l'intention poétique, le discours antillais, la poétique de la relation, le traité du tout-monde, la Coé du Lamentin. Ses poèmes complets, la terre, le feu, l'eau et les vents. En roman La Lézarde, Tout Monde, Sartorius et Hormérode. Et Monsieur Toussaint en théâtre. La prochaine fois, il sera question d'un ami cher à Glissant, Patrick Chamoiseau.
Thank you.